Ils ont changé le monde. Les vêtements. Yvan Jacob.
Pendant des siècles, les femmes ont lutté pour s'y glisser. Histoire d'un vêtement qui a longtemps séparé les genres, le pantalon.
Qui c'est celui qui a fait le pantalon ?
C'est moi.
Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation.
Jean-Paul Belmondo, vous aimez le pantalon pour le soir ?
Ben, si ce qu'il y a dedans est joli, oui.
Les pantalons encore chez Courrèges. Rien que des pantalons dont la ligne souple et coulée désarçonne les féministes impénitents.
J'adore le pantalon, en effet. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme. Je n'aime pas ça du tout.
Le Fouquet, c'était peut-être pas tellement l'endroit rêvé avec un pantalon. Et il y a eu quelque chose de terrible, c'est que c'était pas moi du tout qui étais gênée, c'était tout le monde.
Et Mademoiselle Chanel, comment sont-ils ces pantalons ?
Très beau !
Une formule audacieuse, nous sommes peut-être à un tournant décisif de la mode.
Qui culotte a, pouvoir a, disait-on autrefois, quand il n'était pas encore question de pantalons mais de culottes, de chausses ou de hautes chausses, bref, de vêtements bifides, c'est-à-dire séparant les jambes pour suivre les mouvements du corps. À partir du Moyen-Âge, ce type de vêtements-là est réservé aux hommes. Il leur restera pendant 600 ans, 6 siècles, au cours desquels il échappera aux femmes, cantonné à la robe et à la jupe. Aux uns, le système fermé à l'entrejambe, aux autres, le système ouvert, devenu symbole d'une condition subordonnée. Le pantalon est l'un des vêtements les plus, si ce n'est le plus politique de notre histoire. Il incarne le dimorphisme sexuel, raconte l'ordre social autant qu'il le crée, et distingue les genres autant qu'il contribue à les façonner. À la Révolution, le pantalon devient l'habit de la liberté, celui de l'égalité, pour tous, oui, mais pas pour toutes. C'était sans compter sur les femmes, leur désir de mobilité, de confort, de pouvoir aussi, leur volonté de se glisser dans ce vêtement qui leur restait interdit. L'histoire du pantalon éclaire l'histoire de l'émancipation des femmes, l'histoire du féminisme et des rapports entre les sexes. En 1972, alors que la lutte semblait gagnée, Michèle Alliot-Marie, jeune conseillère politique, arrivait à l'Assemblée nationale en pantalon. Aux huissiers qui lui refusaient l'entrée, elle rétorquait « Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève tout de suite ». Aujourd'hui, on parle du pantalon et de la façon dont il a changé le monde. Et pour en discuter aujourd'hui, je reçois deux invités de marque. Émilie Amène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse, professeure en histoire de l'art et de la mode à l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne, enseignante à l'IFM aussi, à l'Institut français de la mode. Agnès B, est-il besoin de vous présenter ? Bonjour. Vous êtes créatrice
Bonjour.
De mode, vous avez fondé la marque...
Non, je suis styliste.
Styliste.
Je n'aime pas le mot créatrice.
Ok, d'accord, vous êtes styliste.
De mode. C'est un mot des années 80, ça.
Oui, c'est vrai, mais styliste, c'est un mot des années 60.
Mais depuis toujours, c'est ça qui est dans mon passeport, je dis toujours.
Vous avez fondé la marque qui porte votre nom. Oui. C'était au milieu des années 70 et c'est toujours d'actualité. Ensemble, nous allons découvrir un peu de l'histoire du pantalon, mais c'est une histoire si longue et si riche que nous serons obligés de nous concentrer sur un des aspects majeurs de cette histoire.
Pardon, madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire ?
Non.
Est-ce que vous savez que théoriquement, vous devriez en avoir une d'autorisation ?
Non, je ne savais pas.
Il existe une loi qui vous oblige ou à ne pas porter de vêtements masculins ou alors à demander l'autorisation, c'est exact.
C'est un gars. Il n'y a pas de loi. C'est des bobards, je suppose.
C'est peut-être loufoque, mais ce n'est pas nouveau, ça date de 1800.
Interdit, paru au journal officiel ?
Oui.
Tiens, dernière nouvelle.
Non, elle date de 173 ans, la nouvelle.
Le préfet de police, informé que beaucoup de femmes se travestissent et persuadé qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé, alors après quelques considérants, article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Article 3, cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé dont la signature sera dûment légalisée et en outre sur l'attestation des maires ou commissaires de police portant les noms, prénoms, professions et demeures de la requérante. Article 4, toute femme trouvée travestie qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents sera arrêtée et conduite à la préfecture de police.
Et en fin de compte, cette ordonnance préfectorale est en vigueur depuis 173 ans maintenant.
Il semble, puisque personnellement, je n'ai pas retrouvé de texte abrogeant ce texte du 16 Brumaire en 9.
Agnès B., on entendait une archive de 1973. On a l'impression qu'en 1973, les femmes ont déjà oublié que le pantalon était un droit récent, je mets droit entre guillemets. Vous qui êtes née au début des années 40, vous vous souvenez de la façon dont était perçu le pantalon à ce moment-là ?
Alors nous, par exemple, à Versailles, où j'étais élevée, on était en jupe lissée pour aller au cours Gufflet, là où il y avait des profs formidables d'ailleurs. On était en jupe lissée et l'hiver, on n'a pas vraiment de collant. Et donc, quand il faisait moins 10, moins 15, on avait le droit de mettre un pantalon sous la jupe.
C'est ça votre premier pantalon ?
C'est ça mon premier pantalon, je crois. Et puis après, très vite, à 8-9 ans, j'ai une salopette bleue, boutonnée au côté, avec les bretelles croisées dans le dos, une petite bavette. Et ça, ça a été vraiment un truc que j'ai mis pendant 2-3 étés de suite, quoi. Il y a une photo de moi avec ça, d'ailleurs, en noir et blanc, qu'avait fait mon père. Voilà.
C'était donc, un vêtement de loisir ou
c'était une salopette de vacances, hein, bleue, en coton, avec deux poches, une bavette, deux bretelles dans le dos. Puis après, j'ai fait la salopette parce que j'ai beaucoup travaillé les vêtements de travail, puisque je fabriquais à Bordeaux, chez Monsieur Porte, beaucoup de pièces qui étaient chez Agnès B. en 78-80, à la boutique à Saint-Eustache, là, dans les Halles, qui est l'homme maintenant.
Qui était votre première boutique ?
Oui.
Rue du Jour.
Rue du Jour. Trois rues du Jour. Oui.
Et c'est ça qui vous a donné envie de faire des combinaisons, de travailler le vêtement ?
Avec ce fournisseur-là, j'ai tout mis, j'essayais sur moi, je faisais 38, donc ça, j'avais pas besoin de mannequin ni rien, j'allais à Bordeaux, j'essayais sur moi la combinaison, la salopette, la veste de travail, le pantalon de peintre, la veste de serveur. Après, j'ai vendu ça en blanc, après je me suis mis à teindre ces pièces. La veste de serveur en rose, c'était quand même très joli pour les garçons. Voilà, je m'amusais beaucoup et je m'amuse toujours, hein, faut bien dire, puisque je crée tout moi-même.
Mais pour revenir aux années 70, là c'est un moment où pour vous le pantalon est installé.
Ben, 68, on était tous en jean. Hein. Ce qui a révolutionné quand même, c'est un autre vêtement de travail. C'est le jean qui est un vêtement de travail à l'origine. Et Dieu sait si ça a imprimé sur ces décennies-là.
C'est le premier...
Depuis James Dean, depuis Elvis Presley, depuis... Enfin, le jean, c'est vraiment un vêtement de base de notre époque, depuis longtemps.
Et c'est le premier vêtement vraiment unisexe,
oui.
Alors le mot est
oui,
peut-être pas...
Oui, puis avant, il y avait les pantalons qui montaient très haut, avec des bretelles, ce que je trouve beau, parce que j'en fais de temps en temps. Les pantalons à pont. J'ai trouvé dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert le patronage du pantalon à pont, de la culotte à pont, c'est-à-dire avec quatre boutons devant, un petit rabat qui se remonte et qu'on boutonne.
C'est vrai que dans l'encyclopédie, il y avait des patronages. C'est
oui,
quand même, on y...
j'ai ça chez moi, grâce à ma famille versaillaise.
C'est trop
et c'est passionnant.
Peu connu.
Ouais. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est fabuleux.
Mais alors, sortie de l'école où vous étiez en jupe plissée, sauf quand il faisait vraiment très
avec
froid.
Avec un pantalon sous la jupe. Hein.
Voilà. Et à quel moment vous commencer à porter des pantalons de manière quotidienne.
J'ai eu un jean, par exemple, que j'ai acheté Elvis, Levis, pardon, qui était bleu marine, et il a fini en Bermuda, puis en short, il est devenu bleu pâle, comme ma veste chinoise que j'ai aujourd'hui, qui était une veste aussi bleu marine à l'origine.
Délavée.
Puisque c'est l'indigo,
bien sûr.
En fait, c'est donc... ça. Et au Japon, ils se sont servis beaucoup de l'indigo. Oui, ils s'en servent toujours d'ailleurs.
On va revenir
c'est du bleu naturel
sur le pantalon plus tard, mais on entendait Émilie Hamen dans l'archive la lecture d'un décret qui date de l'an 9, c'est l'an 1800, qui interdit aux femmes de se travestir en homme, donc de porter le pantalon. Mais le fait que les hommes portent des vêtements bifides, c'est-à-dire avec les deux jambes séparées, et les femmes des jupes, ça date pas du tout du 19e siècle. Ça date du Moyen-Âge.
Non, absolument. C'est vrai que quand on regarde les premiers écrits des historiens de la mode, des vêtements, on tend à, voilà, à concevoir le 14e siècle à peu près comme ce moment où, assez symboliquement, la silhouette masculine et la silhouette féminine, certes, elles étaient déjà différentes, mais précisément cette silhouette masculine qui va se structurer avec un bas qui suit l'anatomie des deux jambes, alors que la silhouette féminine va demeurer drapée, ce qu'elle était précédemment. Donc, c'est pas encore un pantalon, on va sans doute revenir dessus, mais effectivement, à peu près dans cette période-là, dans cette période médiévale, qu'on associe également assez symboliquement à la naissance de la mode,
c'est
dans
vrai.
Un contexte occidental, ça passe aussi par l'apparition de cette pièce du bas pour le vestiaire masculin qui est effectivement l'ancêtre du pantalon.
Ce qui est intéressant, c'est que des hommes vont rester en robe, mais c'est les professeurs, le clergé, voilà, c'est les seuls hommes qui sont encore en robe aujourd'hui dans le monde occidental.
Exactement. Donc peut-être des formes très particulières de vêtements de travail qui autorisent en effet cette subversion que certains créateurs revisiteront bien plus tard dans le XXe siècle.
Alors pendant des siècles, les hommes vont porter la culotte. Le thème de la dispute de la culotte comme lutte de pouvoir au sein du couple existe déjà au Moyen-Âge. Ça, c'est vraiment passionnant. On voit dans les marges des manuscrits des petits dessins qui font référence à cette lutte pour la culotte. Pourquoi le pantalon est devenu comme ça le symbole de l'autorité maritale? Parce que ça aurait pu être autre chose que cet objet-là.
Il me semble que c'est l'autorité masculine dans une société patriarcale. Par glissement, si je puis dire, c'était un vêtement qui était réservé au genre masculin. Genre masculin qui dominait aussi bien le foyer, le monde domestique que bien sûr le monde politique.
Et puis le cheval, parce qu'elles montaient en Amazon, les femmes. Hein.
Oui, alors le cheval, c'est, l'histoire du pantalon est aussi liée à l'équitation et au sport en général, on le verra, mais effectivement, pendant toute une période, les femmes montent même parfois d'un
en
seul côté du cheval
en
avec
robe
les
en
deux
Amazon.
Jambes sur le côté. Ouais. C'est ça qui est fascinant dans l'histoire du pantalon, peut-être plus qu'avec n'importe quel vêtement, c'est qu'il est le témoin de la fabrique d'une masculinité et d'une féminité, Émilie Amène.
Absolument, on peut le suivre, on pourrait faire une histoire de la mode uniquement par le pantalon, absolument. Voilà, la façon dont il va traverser les siècles, la façon dont il va cristalliser à la fois des luttes de pouvoir, des modes de vie, la manière dont il se décore, on pourrait faire voilà une histoire matérielle de cette pièce de vêtement et comprendre ce que ça a raconté des rôles de pouvoir, des différences de classe entre un pantalon porté par un aristocrate qui serait donc une culotte ou le pantalon porté par un ouvrier, un petit maître, issu de cette classe.
Avec des sabots.
Avec des sabots, absolument. On peut retracer un peu tous ces grands moments, à la fois de notre histoire politique et sociale, et bien sûr de l'histoire des apparences.
Et alors, certaines femmes d'action, justement, vont contrevenir aux règles vestimentaires, dont une particulièrement célèbre.
Jeanne d'Arc, vous êtes accusée de 70 crimes. Vous êtes accusé de sorcellerie, d'hérésie et de porter des vêtements d'homme.
Je ne dois rendre de compte qu'à Dieu.
Ivan Jacob. C'est une question peut-être un peu naïve, Émilie Amène, mais pourquoi les femmes pendant tout l'Ancien Régime et même ensuite ont cherché à se travestir, à porter le pantalon? Pour quelles raisons?
Alors, je ne pourrais pas parler pour toutes les femmes de ces siècles, mais il semblerait que c'est les possibles offerts par le pantalon, à savoir tout simplement cette action, cette mobilité que permet cette pièce de vêtement. Et par-delà la mobilité, qu'il s'agisse, on l'évoquait, hein, de monter à cheval, de courir, de marcher peut-être plus librement, c'est tout ce que ça va cristalliser derrière, c'est ce pouvoir d'agir, cette action qu'on va pouvoir conquérir par le mouvement que permet ce pantalon.
Mais c'est comme le chevalier d'Eon, hein, je pense à lui, une femme, un homme, on ne sait pas, mais il est en garçon, il se bat l'épée. C'est un drôle de personnage, celui-là, par exemple, si on parle du pantalon avec les femmes.
C'est vrai que ça permet de jouer comme ça sur des identités, mais il y a des rétributions symboliques au fait de s'habiller en homme, parce que ça permet d'accéder à des métiers qui sont interdits aux femmes, par exemple.
Absolument, et je pense que si on regarde là encore à cette échelle l'évolution d'un vestiaire féminin, la nécessité parfois d'accéder à certains métiers traditionnellement réservés aux hommes, c'est aussi une occasion d'accéder au vestiaire qui va avec.
Alors pendant toute la période de l'Ancien Régime, il y a de timides tentatives par certaines femmes d'introduire des vêtements fermés à l'entrejambe, comme Catherine de Médicis qui a rapporté des caleçons d'Italie pour monter à cheval, mais ça prend pas du tout. Pourquoi ça prend pas? Quelle est, y compris de la part de femmes qui résistent à ce désir peut-être ou cette volonté de porter des vêtements fermés? Émilie Amène.
C'est là que je pense qu'il faut regarder par-delà des considérations esthétiques, tout ce que ça peut cristalliser, à la fois d'un sentiment peut-être même religieux, d'une conviction de la place et du rôle de la femme. Ça peut paraître, et c'est bien tout l'enjeu hein, d'une histoire des apparences, on a l'impression qu'on se concentre sur peut-être un aspect de la vanité, de la coquetterie, mais bien sûr derrière toutes ces actions et toutes les convictions, tout ce que peut cristalliser un vêtement, c'est ça qui en fait toute la saveur, hein, c'est que véritablement, c'est pas juste choisir ce qu'on porte, c'est aussi s'inscrire dans un modèle social. Et parfois, on peut être les premiers ou les premières à ne pas se projeter dans un modèle qui peut paraître contrevenir à une morale, à une religion. Et parfois, les barrières sont intériorisées, si je puis dire.
Mais alors à Versailles, je peux vous dire qu'elles n'avaient pas beaucoup de culottes, les femmes, qu'il se passait énormément de choses dans les petits couloirs derrière les pièces.
En parlant de Versailles, il y a une anecdote que j'aime bien. Au XVIIIe siècle, le duc de Lauzun reçoit la visite d'une de ses amantes qui vient le voir en culotte de peau, parce qu'elle est sans doute à cheval d'ailleurs, oui. Et il écrit dans ses mémoires « Il n'en fallait pas plus pour me dégoûter à jamais d'une femme ». Je pense que ça dit bien ce que représentait une femme en pantalon
c'est dément,
à l'époque.
Ça, oui.
Alors on arrive à la révolution de 1789. C'est un moment important parce que c'est là que le pantalon se généralise, le pantalon à proprement parler. Avant ça, on parle du coup plutôt de culottes. Oui. Donc on a les sans-culottes d'un côté qui sont les travailleurs en pantalon et les culottes qui sont symboliques de l'aristocratie ou des classes supérieures. Émilie Amène.
Oui, c'est ça, qui peuvent cristalliser, là encore, en une seule pièce de vêtements, finalement, tout un ordre politique. Et ça devient une sorte de lutte pour un vestiaire, mais qui, bien sûr, derrière, va charrier bien d'autres enjeux, bien d'autres histoires. Et effectivement, ce pantalon, il est déjà alors relativement répandu. Ça demeure un vêtement pour enfants, hein, qui est largement utilisé, quelles que soient d'ailleurs les classes sociales. Et bien sûr, ça c'est un vêtement qui est très courant dans les classes populaires et notamment chez les travailleurs. Et donc, cette logique, cette tension qui anime la Révolution française et tous ces conflits entre les classes, elle va se cristalliser dans une pièce de vêtement.
Mais alors, j'ai une question. Le pantalon, on dit qu'il se généralise à tous les hommes, mais il y a quand même les dandys, ils portent quelque chose qui s'apparente à une culotte au 19e, quelque chose de
Oui, mais
de
je pensais serré. Aux incroyables et aux merveilleuses.
Oui.
Justement, à la fin du 18e, début 19e, là, c'est vrai qu'ils sont mis à avoir des vestes plus courtes et on voyait le pantalon du haut en bas, depuis la taille, quoi, avec ces petites vestes plus courtes. Et ils étaient vraiment des dandys hein, du moment, les garçons et les filles, là, les incroyables et les merveilleuses.
Les incroyables et merveilleuses, ouais. Qui sont des jeunes.
C'est une jolie histoire, ça, je trouve.
Des jeunes gens de la Révolution,
oui,
qui vont s'habiller de manière extravagante.
Ouais, juste après la Révolution, oui. Ils sont habillés comme ça.
Mais pour rebondir sur les dandys, je pense que c'est peut-être l'occasion ici de dire qu'il y a bien sûr des pantalons.
Ouais.
Et il
n'y
a pas seulement un modèle de pantalon. Et précisément, les dandys nous invitent à voir mille nuances entre 3-4 pantalons qui peuvent nous apparaître identiques, coupés dans un drap de laine noir. Ouais. En réalité, ça va être la forme de l'ourlet, ça va être les proportions, ça va être la manière dont la braguette est montée, la manière dont la poche va être coupée. Donc il y a différents types, bien entendu, de pantalons et le phénomène du dandysme, cette quête qui est tout à la fois esthétique et sans doute aussi philosophique, enfin très certainement philosophique, telle qu'elle se déploie à partir des années 1820, c'est un exercice, c'est un mode de vie, c'est une manière de se penser, notamment par ce costume et notamment par un costume qui comporte un
pantalon. Et puis c'est l'arrivée des bretelles aussi, je pense. Parce qu'il fallait avoir le pli bien tendu, hein, le pli de pantalon devant, là. Donc, ce qui fait bien tendu, c'est les bretelles.
Agnès B., vous parliez des incroyables et des merveilleuses. Vous avez créé une carmagnole dans une récente collection,
oui.
Rouge, qui est magnifique,
oui.
Que j'ai vue. C'est une période qui vous inspire, qui vous a inspiré, la Révolution ?
Oui, ça m'a toujours inspiré, oui. Parce que j'ai tout lu sur Versailles entre 12 ans et 15 ans, ça me passionnait. Donc, la Révolution, le dessin de David, de Marie-Antoinette, allant sur la charrette à son supplice, c'est un dessin magnifique.
Dans une robe toute simple.
C'est un dessin au trait qu'il a fait de son balcon, il habitait rue Saint-Honoré.
Oui, alors il a vu passer.
Il a vu passer la charrette avec Marie-Antoinette, et ce dessin est bouleversant, je trouve.
À la Révolution, il y a des espoirs d'obtenir des droits pour les femmes. Ces espoirs vont être vite douchés. En ce qui concerne les vêtements, un décret du 29 octobre 1793 pose que nulle personne de l'un ou de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ni citoyenne à se vêtir d'une manière particulière. Mais il stipule aussi ce décret que chacun est désormais libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe. On s'attaque aux inégalités de classe, mais pas aux inégalités de genre. Émilie Amène, pourquoi la Révolution tient à ce point à ce que le vestiaire genré perdure ? Parce qu'on aurait pu imaginer que tout vole en éclats à ce moment-là.
Il y a déjà beaucoup de choses qui volent en éclats avec la Révolution. Donc la période post-révolutionnaire, on tend peut-être à l'oublier quand on la considère de manière idéalisée ou par le biais des manuels d'histoire. L'après-révolution est un moment assez angoissant. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus à qui on a affaire. Et déjà que c'est assez perturbant, pour reprendre les mots de Balzac, qu'un commis puisse ressembler à son maître parce qu'il a désormais accès à des vêtements confectionnés qui peuvent avoir une facture en apparence assez sophistiquée. En réalité, ils sont assez piètrement fabriqués. Mais donc cette hiérarchie sociale qui est en train de vaciller visuellement, tout du moins, pas du tout dans les faits. Si en plus on se travestit, on peut imaginer là encore la confusion supplémentaire. Donc cette période post-révolutionnaire, c'est ça qu'elle a de fascinante. Elle essaie de reconstruire un projet de société dans un contexte politique qui est tout aussi mouvant, et donc réaffirmer, somme toute, des principes, des distinctions, ça va être vraiment quelque chose qui importe pour retrouver une sorte de cohésion et surtout une lisibilité du corps social.
Parce que c'est quelque chose qu'on ne se figure pas toujours bien, mais pendant le Moyen-Âge et pendant l'Ancien Régime, le vêtement est vraiment la pièce d'identité de la personne qui le porte. C'est-à-dire que ça définit le genre, mais aussi la classe sociale, le métier souvent.
Absolument. Ça le définit, on pourrait le dire, absolument toujours aujourd'hui. Seulement la relative démocratisation de la consommation de mode peut entraîner, sinon un brouillage, du moins parfois certaines confusions. On peut avoir l'air de ce qu'on n'est pas réellement. Alors qu'effectivement, dans la période en France pré-révolutionnaire, dans cette période de l'Ancien Régime, les édits somptuaires, des lois extrêmement strictes, vont faire en sorte qu'on ne va pas emprunter le vêtement d'un duc, d'un comte, si quand bien même nous, riches bourgeois, nous en aurions les moyens.
Alors vous parliez de Napoléon, Agnès B. tout à l'heure, c'est vrai qu'il va remettre...
Mais lui, il a fait ses pantalons tendus, là, avec un sous-pied, ou je sais pas quoi, je trouve ça pas beau du tout, mais ça continue aussi sous Napoléon III, d'ailleurs.
Des pantalons un peu d'équitation
bien tendus,
aujourd'hui.
Bien tendus, par des bretelles et par un sous-pied, sous la chaussure. Hein. On les voit dans les tableaux, comment ils sont habillés, et bon... J'aime pas trop ça, moi.
En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pantalons pour femmes. Alors, le décret dont je parlais ouvre un 19e siècle qui est assez féroce pour les femmes. Et il y amène à la fois vestimentairement, mais aussi sur les droits.
Absolument, le 19e siècle va réaffirmer toutes ces divisions à l'intérieur de la cellule familiale, avec cette différence près qu'on rentre dans un régime démocratique a priori, mais qui est façonné par une idéologie nouvelle qui est le capitalisme marchand. Et donc effectivement, dans ce nouvel ordre des choses, la productivité, l'action, les décisions sont prises par un homme qui désormais porte un costume sombre avec un pantalon, et la femme est bien sûr relégué à cette sphère domestique où il n'y a rien de mieux qu'une robe, une robe de chambre.
Puis cette expression, c'est qui porte la culotte, c'est quand même significatif, non ?
Ça, c'est voilà, et qu'on utilise
à travers les âges, ça, oui.
Oui. Alors au cours de ce 19e siècle, on va quand même voir quelques femmes porter le pantalon. L'une des plus célèbres d'entre elles est George Sand, qui en a témoigné dans ses mémoires. Elle y écrit « Je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j'allais au parterre de tous les théâtres. » C'est intéressant ce que dit George Sand, parce que ce qu'elle décrit, c'est le fait d'exercer sa liberté en passant inaperçu, en pouvant infiltrer la société des hommes, ce qui est très important pour ses écrits aussi, mais aussi de dépenser moins d'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, mais elle explique qu'avant elle, sa mère déjà s'habillait en homme, parce que ça coûtait moins cher pour des raisons économiques, en fait, tout simplement. Alors, Agnès B., l'idée que la mode féminine, parce qu'elle change tout le temps et se démode, et donc elle coûte plus cher, et est déjà présente au 19e siècle. Vous avez toujours expliqué que vous n'aimiez pas la mode. Est-ce que le pantalon peut aussi être une solution, justement, à ne pas se changer?
Vous savez, il y a toutes sortes de pantalons, là. Si vous marchez dans Paris aujourd'hui, il y en a comme pantalon en jean qui traîne par terre avec le bas décoloré. Il y a toutes sortes de pantalons. Hein. C'est un vêtement très autant porté que les robes, presque, je dirais.
Et est-ce que
les touristes à Paris, là, on voit ça. Hein.
Est-ce que dans vos collections, les pantalons pour hommes sont moins changeants que les pantalons pour femmes?
Ah non, je fais toujours des nouveaux modèles. J'aime beaucoup dessiner l'homme aussi, ouais.
Il y a un certain nombre de femmes, je le disais, qui vont se travestir comme ça au 19e siècle, mais pas pour des raisons féministes. En tout cas, pas dans le cadre d'un discours politique, Émilie Hamen. Ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'elle revendique quelque chose.
Pas Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, elle ne s'est pas mise en pantalon,
si,
je crois que si. Hein.
Mais sans revendiquer un discours féministe.
Oui, c'est vrai.
Bon, ça ne vous insure pas plus que ça. Il y a Rosa Bonheur aussi, qui pour travailler mettait un pantalon. Et Louise Michel en parle aussi rapidement. Je crois qu'elle cite Je voudrais pas dire de bêtises, mais l'enterrement de Victor Noir, de journaliste, où elle profite d'être en pantalon pour se fondre dans la foule. Au long de ce 19e siècle, on voit apparaître des pantalons pour femmes qui sont des pantalons de lingerie, on en parlait tout à l'heure, des pantalons qui se portent sous les robes, mais alors ces pantalons sont fendus, c'est-à-dire que c'est pas des
ouverts
pantalons fermés.
Ouverts au milieu.
Alors quand on porte un corset, une chemise et un dessus de corset, etc., ouais, on comprend qu'on ne peut pas tout enlever pour aller aux toilettes, ça c'est sûr.
C'était des culottes ouvertes en fait.
Oui, mais on aurait pu trouver un autre système.
Qui allait jusqu'aux genoux avec des volants et des trucs comme ça, hein, oui.
Voilà, et c'était...
Ça se voulait coquin déjà, je dirais.
Ah, vous pensez qu'il y avait une dimension coquine?
Oh, je pense, oui.
C'est vrai que dans les dessins, c'est très érotisé ce système ouvert.
Oui.
Alors, au milieu du siècle, on commence à sentir les prémices d'un changement, pardon, mais plutôt aux États-Unis, avec Amelia Bloomer qui adopte un pantalon. Mais ce pantalon, il n'y a pas grand-chose à voir avec un pantalon, en fait, Emilia Mann.
Effectivement, le pantalon qu'Amelia Bloomer invente, elle ne l'invente pas tant que ça, elle va l'emprunter à toute une tradition de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de Bloomer.
Elle a laissé son nom à ce vêtement.
C'est ça, et donc elle est à la fois une femme de lettres, une intellectuelle, quelqu'un qui va publier un journal, donc elle est très attachée à la circulation d'idées nouvelles sur les femmes, mais pas que, aussi sur leurs vêtements, et on pourrait la rattacher à différentes mouvances qui vont voir le jour au cours du 19e siècle, qu'on va appeler ces mouvements de réforme vestimentaire, qui là encore semblent s'attacher à des détails assez triviaux de notre vie quotidienne, à savoir ce que l'on porte, mais derrière ce que l'on porte, les débats que portent notamment ces femmes et l'ensemble de ces mouvements de réforme, c'est bien sûr repenser un projet social. Et pour Amelia Bloomer, il s'agissait avec ses camarades qui étaient des Américaines de l'État de New York, de penser un système social à l'intérieur desquels les femmes avaient notamment le droit de vote.
Oui, et c'est ça, c'est l'histoire du pantalon commence à être liée à l'histoire de revendication de droits à ce moment-là, et notamment au droit de vote. Alors, il est tellement moqué au départ, ce pantalon, ce bloomer, il attire tellement l'attention que ça détourne finalement l'attention de questions plus fondamentales comme la question du droit de vote, au point que certaines féministes vont décider de l'abandonner. Amelia Bloomer aussi va l'abandonner progressivement. Il y a un point qu'on apporte assez rarement, il y a plusieurs cas de communautés utopistes en France et aux États-Unis avec des volontés de réforme du vêtement, au cours du 19e siècle, qui accordent le pantalon aux femmes, mais ça n'a aucune incidence sur les droits de ces femmes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas plus de droits, elles continuent de faire les tâches qui sont réservées généralement aux femmes. Et c'est important de le souligner parce qu'elles n'ont pas plus d'opportunités économiques, pas de nouveaux droits. Pantalon ne rime pas forcément avec émancipation, Emilia Mann. On a envie de lier les deux, mais c'est pas automatique.
C'est ça qui fait toute la complexité justement de l'histoire des apparences, l'histoire des pratiques vestimentaires. On a l'impression qu'un couturier met une femme dans un pantalon et que la femme est émancipée. Ces récits à l'emporte-pièce, bien sûr, sont assez faux fondamentalement. Et c'est pas parce qu'on porte un vêtement qui donne un sentiment de liberté qu'on l'a effectivement conquise. Et on pourrait imaginer, à rebours de cette fausse démonstration, que vêtue d'un vêtement extrêmement conventionnel, voire même conservateur, on puisse être capable de faire bouger des idées, des manières de penser et d'agir.
Je vous ai déjà entendu dire, Emilia Mann, que vous étiez assez sceptique sur le concept de libération des femmes quand on parle de vêtements.
C'est-à-dire que je trouve qu'on a un récit qui est souvent assez simpliste, alors qui est tout à fait facile à appréhender. On a l'impression que justement porter un vêtement peut du jour au lendemain transformer le rôle que l'on peut avoir au sein d'une société. Ce que je veux dire par là, c'est que les conquêtes, bien sûr qu'elles peuvent avoir lieu en face de son armoire, c'est effectivement un lieu où on construit sa propre identité, mais il faut jamais perdre de vue qu'il y a des mouvements bien plus profonds, des changements de mentalité qui, eux, se travaillent, si on parle du mouvement féministe, au sein de réseaux, au sein de réunions, qui, elles, vont se structurer à partir du 19e siècle de plus en plus, et que c'est tout le travail idéologique, tous ces débats, toutes ces conversations, toute la circulation de ces idées-là, qui prépare le terrain, qui prépare les mentalités, qui prépare les réceptions, et un jour, effectivement, une créatrice, une styliste, un couturier va sentir un moment de l'époque et se dire peut-être intuitivement effectivement, le moment est juste pour proposer ce vêtement-là. Mais c'est cette articulation entre les deux qui fait voilà, tout le travail et ces complexes de l'histoire, qui est d'articuler tout ça et de comprendre qu'est-ce qui vient avant l'autre.
Et vous savez, je fais beaucoup de combinaisons, moi, zippées, d'une seule pièce. Hein. Maintenant, elle s'ouvre, la mienne. Et j'en suis très contente de ce truc-là, parce que j'en porte beaucoup, moi aussi, de ces combinaisons. Ouais. Longtemps.
Dans les années 1880, une femme, Marie-Rose Astier de Valzer, va demander l'abrogation du décret sur le travestissement, celui de 1800, auprès de l'Assemblée. Elle écrit « Messieurs les députés, dans toutes les bagarres de terre ou d'eau, la femme, en raison de son costume, est une victime prédestinée à la mort et les accidents de tramway survenant pour le même motif sont quotidiens. » C'est juste après l'incendie de l'Opéra Comique à Paris. 2 ans plus tôt, il y a eu le drame du bazar de la Charité où beaucoup de femmes sont mortes. Il y a des accidents de tramway, des accidents domestiques à cause des cheminées et des robes très larges qui prennent feu. C'est intéressant parce qu'un journaliste lui répond à Marie-Rose Astier de Valzer en se moquant. Il regrette qu'elle remette en cause, je le cite, « un usage immémorial consacré par le consentement ininterrompu d'innombrables générations ». Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a une autre femme, Madeleine Pelletier, qui s'habillait en homme. Et elle va demander, elle aussi, l'abrogation du décret sur le travestissement. Et elle raconte, Madeleine Pelletier, combien s'habiller en homme lui a coûté personnellement dans sa vie. C'était tellement mal vu par les hommes, mais aussi par les femmes et même par les féministes. Et elle a perdu beaucoup en s'habillant en homme.
Moi, je pensais à Marlène Dietrich dans Morocco, où elle est habillée en homme avec un haut de forme, un nœud papillon et tout. Et elle est magnifique habillée en homme comme ça.
Il y a une photo de Marlène Dietrich qui est incroyable. Je crois que c'est en 1933. Elle arrive, Gare Saint-Lazare, dans un smoking d'homme.
Mais c'est ça, elle s'habille en homme, Marlène Dietrich. Il faut retrouver ces photos d'elle. Parce que... Et Morocco, elle part rejoindre avec Marlène Dietrich. C'est Gary Cooper, tout jeune. Je crois que c'est Gary Cooper qui est légionnaire. Et elle part finalement, elle abandonne son costume masculin. Et elle part dans le désert. Avec un foulard à la main, pieds nus dans le désert, à la suite de son beau légionnaire. Mais c'est très beau, j'ai beaucoup aimé ce film.
Les choses vont beaucoup évoluer avec le développement de la pratique sportive et surtout l'arrivée de la bicyclette qui nécessite un habit nouveau. Mm-hmm.
La véritable révolution, la plus grande réforme de notre siècle, peut-être, au point de vue des mœurs et des idées, c'est justement la femme en culotte, née de la bicyclette, et des sports triomphants. Plus de Bastille sexuelle, crient les réformateurs du costume. Et tandis que tombe la jupe, la culotte apparaît. En attendant que le pantalon, dont on peut suivre les timides apparitions, entre en ligne de compte. Un jour, sans doute, entre la culotte et le pantalon, il y aura lutte. De la culotte universelle ou du pantalon universel, qui l'emportera ? On ne saurait le dire. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que la culotte, c'est encore la femme portant la marque, l'étiquette extérieure de son sexe. Tandis que le pantalon, c'est la femme absolument homifiée. L'incognito complet, la possibilité de voir, de circuler tout à son aise dans la rue, de parcourir le monde sans être l'objet d'aucun regard indiscret. L'égalité pour tous, 2 jambes de chair dans 2 jambes de drap.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Émilie Amène, c'est la bicyclette, mais aussi les sports d'hiver, les pyjamas de plage qui ont habitué la société et l'œil à voir la femme en pantalon.
Toujours cette question du mouvement. On y revient parce que c'est ce que permet précisément un vêtement qui autorise un mouvement des jambes alors que l'on pédale, que l'on court après une balle de tennis ou une balle de golf. C'est effectivement le moment où ce sport gagne en popularité, gagne surtout en mode, devient une pratique qui permet la distinction, qui permet l'affirmation d'une classe de loisirs aussi, que l'on va tenter, bon an mal an, parfois d'adapter un vestiaire qui depuis des siècles, on l'a vu, contraignait la femme dans une relative immobilité.
Mais il y a aussi les shorts, les bermudas, les pantalons longs. Enfin, il y a beaucoup de formes, finalement, de choses qui séparent les deux jambes.
Mais j'allais vous poser la question, Agnès B., quand vous étiez enfant, dans les années 40-50, est-ce que c'était aussi pour le sport qu'on portait des vêtements bifides, justement, des shorts ?
Déjà, je veux dire une chose, c'est qu'on avait beaucoup moins de vêtements que maintenant. Mmh. On en avait très peu. Vraiment, je partais en Angleterre pour un mois avec une valise, avec presque rien dedans, quoi. Maintenant, je pense qu'on a trop de vêtements et qu'il faut savoir prendre des vêtements qui durent longtemps. et qui sont pas à la mode, qui sont indémodables.
Que ce soit par le sport ou par autre chose, on voit que c'est quand même par des biais détournés qu'on arrive aux pantalons pour femmes. On ne veut pas de pantalons masculins, donc on va piocher dans des références sportives ou étrangères, comme le fait Paul Poiret avec son pantalon harem, enfin, qu'on appelle pantalon de harem, Emilia Men.
Oui, on cherche des alternatives. Et depuis souvent, cette circulation à la fois des étoffes, des motifs et parfois des formes de vêtements, venues d'ailleurs à la faveur de...
Voilà, de comme dynamique. Les sarouels, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les sarouels.
Ouais. Des dynamiques de marchands, qu'il s'agisse par exemple le pyjama qu'on évoquait, qui a une antériorité qui vient comme son orthographe encore aujourd'hui, même s'il est largement francisé.
Ça vient d'où, pyjama ?
D'Inde.
Ah bon ?
C'est un très vieux, une forme de vêtement qui a une origine extrêmement ancienne en Inde et qui a circulé notamment à la faveur, enfin, dans le contexte des empires coloniaux, notamment avec l'empire colonial britannique, oui. Les Anglais qui ont introduit ça dans un vestiaire occidental. Et effectivement, Paul Poiret en est un exemple parmi d'autres de chercher dans cette dynamique exotique, entre guillemets, avec ce prisme résolument orientaliste, hein, de prendre dans un ailleurs qui fait fantasmer et voyager d'autres manières d'être, d'autres féminités, qui a un contexte bien particulier de ce début du XXe siècle.
Alors pendant la Première Guerre mondiale, il y a des pantalons, des combinaisons dans les usines portées par les munitionnettes, les femmes qui travaillent dans les usines d'armement. Mais le pantalon n'est absolument pas généralisé dans ces années 10, Emilia Men. Parce qu'on a l'impression parfois que la guerre va tout changer, mais pas tant que ça.
Oui, là aussi, c'est peut-être des tournants qui sont assez commodes à positionner quand on veut essayer d'appréhender l'histoire de la mode. Il faut bien comprendre que aussi certaines avancées, si tant est que l'accès des femmes dans ces conditions assez contraintes au travail soit effectivement à plus d'un titre une avancée, il y a toujours une forme, bien souvent une forme de retour en arrière. Donc le retour est parfois presque plus brutal que les avancées qui auraient pu être menées. Donc oui, effectivement, dans les années 1920, dans cet après-guerre, si les pyjamas font fureur sur les plages de Biarritz, par exemple, on refaçonne, somme toute, une silhouette féminine qui est certes plus tubulaire, qui raconte aussi un corps plus moderne, mais qui est toujours en jupe et en robe.
Dans l'entre-deux-guerres, c'est pareil, il y a des jupes-culottes. Le couturier Jacques Haim, par exemple, propose des tailleurs jupes-culottes qui sont très jolies, mais ça semble quand même réservé à une élite. Il y a aussi une vogue du smoking pour femmes dans les années 20. Agnès B., est-ce que vous savez si votre mère portait des pantalons quand elle était jeune ?
Elle était jeune quand j'étais petite. Hein. Elle avait une salopette verte que mon père lui avait achetée à Jean Lépin. On était à Antibes. Une salle avec des grosses boucles, là, des grosses pattes, vert pomme, vert vif. Vert émeraude, je dirais.
Dans
elle était mi-mollet, en toile. Il lui avait apporté ça, je l'avais jamais vu en pantalon, ma mère, en fait. C'était son premier pantalon, cette salopette verte. Ouais. Je m'en souviens comme si elle était devant moi, là.
Et vous aviez quel âge, à peu près ?
J'avais 9 ans. 9 ans.
Donc à 9 ans, vous n'aviez jamais vu votre mère en pantalon ?
Non, elle mettait pas de pantalon. Elle trouvait ça pas féminin.
Et ses amis non plus, ou vos tantes ?
Mes tantes, mais elles étaient toutes très jolies. Mes tantes, ma mère, tout ça. Mais elles étaient féminines, elles ne mettaient pas tellement de pantalons. S'il y avait des corsaires, c'est le corsaire qui est apparu. Un pantalon un peu court qui laissait voir la cheville avec une petite fente, vous voyez. On en fait toujours d'ailleurs. Mais le corsaire, il a eu son temps de gloire, oui, dans les années 50-60.
Ah, c'est drôle que vous citiez Julien Lépin, parce que Julien Lépin était justement dans les années 30 renommé Pyjama Police, quand vous parliez des pyjamas, parce qu'il y avait énormément de femmes en pyjama de plage.
Oui.
Mais justement, Jacques M, le couturier que vous citiez, c'est quelqu'un aussi qui est un peu méconnu pour différentes raisons dans l'histoire de la mode, mais c'est quelqu'un qui est très à l'écoute justement de ce vestiaire balnéaire et ce vestiaire de sport.
Ah oui.
Et c'est pas anodin justement qu'il arrive à ces ensembles jupes-culottes. C'est parce qu'il a des boutiques à Cannes, il a des boutiques aussi sur la côte basque, et voilà, pour lui c'est une manière de réagir à cette
tandis que Chanel, je crois qu'elle a jamais fait vraiment de pantalons pour les femmes, elle aimait pas ça, ni les mini-jupes ni les pantalons, je crois.
Alors les mini-jupes, elle les détestait.
Oui.
Les pantalons, elle en a fait quand même, parce que dès les années je crois que c'est au milieu des années 20, elle est une des premières à créer un vestiaire. Ce qu'on appellerait aujourd'hui sportswear, avec des vêtements pour le sport. Alors, il faut relativiser ce qu'est un vêtement pour le sport dans les années 20. Ce n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme vous le disiez aussi, Emilia Men, ils vont, les couturiers, ouvrir des coins pour le sport. Schiaparelli le fait. Ils vont tous ouvrir des boutiques dans les villes balnéaires et proposer un vestiaire un peu sportif.
ils sont en cela assez, j'ai envie de dire, opportunistes, ou en tout cas tout à fait au fait des transformations, des modes de vie de leur clientèle. Effectivement, il faut les trouver là où ils sont, et en bord de mer, sur un terrain de golf ou de tennis, effectivement, on porte un pantalon ou en tout cas une jupe culotte.
Alors, on parlait de Marlène Dietrich et de son pantalon qui choquait. Alors, le film Morocco que vous citiez, c'est 1931, en fait, oui. C'est très très tôt. Et il y a une autre femme qui va choquer bien des années plus tard, enfin dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Juliette Gréco dans les rues de Saint-Germain-des-Prés.
Vous habillez en homme.
Je m'habille en homme.
Avec des complets d'hommes parce que vous n'aviez pas de quoi vous offrir des robes de femme.
Non.
Il faut imaginer.
Mais de toute façon, j'aime ça. De toute façon,
il faut imaginer qu'on est encore dans un monde où la femme, femme en cheveux, c'est une chose qui...
C'est très, très, très limite. Comme les garçons sont plus grands que moi, je suis obligée de retrousser mes pantalons. Ce qui va devenir la mode.
Les grands revers, oui.
Hein? Pantalons, les jeans retroussés, les manches de d'hommes. Aussi retournée parce que les manches de veste, elles m'arrivent au bout des doigts. Donc, de la misère, j'ai fait une mode, curieusement. Et de cette couleur noire, aussitôt que j'ai pu m'acheter quelque chose, j'ai acheté un pantalon noir, un chandail noir. Et tout ça est devenu une mode. J'étais une jeune personne extrêmement scandaleuse et j'avais un chandail noir, un pantalon noir et des pieds nus dans des sandales et parfois pas de sandales parce que les lanières craquaient.
Oui, à bout de souffle, elle portait un jean, Jean Seberg, que j'ai bien connu, que j'aimais beaucoup, et Romain Gary aussi. Mais elle portait un jean avec New York Herald Tribune, avec son t-shirt, là. Godard a vraiment influencé beaucoup la manière de s'habiller des jeunes aussi. Où il l'a perçu au bon moment, il a vraiment bien parlé de ça. Puis la nouvelle vague aussi, c'était, à ce moment-là, on voit que les gens avaient peu de vêtements, ils ont tout le temps les mêmes vêtements dans les films. Les garçons et les filles sont toujours habillés pareil, presque. Puis en film noir et blanc, en plus. Donc, moi, ça m'a influencé, la nouvelle vague, sûrement. Même maintenant, je pense.
Cette mode de pantalon, elle est passée aussi par le cinéma.
Oui, parce que le désassorti, une veste en tweed avec un pantalon en toile ou en gabardine. Enfin, les dépareillés aussi, comme ça, cette manière de s'habiller pendant la nouvelle vague, parce qu'ils avaient très peu de vêtements et peu d'argent. Donc, ça m'a influencé. C'est ma génération, disons. Oui.
Et c'est un moment où il commence à avoir une influence des modes américaines mélangées avec un vestiaire plus classique français.
Mais oui, et puis alors je pensais aussi à La Rivière sans retour avec Marilyn Monroe, avec son jean, là, elle a ce jean le long de cette rivière, là, c'est très, très beau. Et alors ils ont vendu ses affaires après sa mort à New York, j'étais allée visiter toute seule, on m'avait envoyé voir toutes ses affaires à elle. Et donc il y avait ce jean qu'elle portait dans La Rivière sans retour, et c'est comment il s'appelle celui qui fait le cheval là?
Ah, Ralph Lauren.
Ralph Lauren, ah. C'est lui qui a acheté le jean aux enchères qu'elle porte. D'accord. C'est une histoire de pantalon que je trouvais marquante, quoi, parce que c'est un très beau film aussi.
Alors, Émilie Hamen, dans l'extrait qu'on a entendu, on entend Juliette Gréco dire « j'étais une personne scandaleuse » en liant le pantalon à ce scandale. À la fin de la guerre, en 1945, la première silhouette proposée par Pierre Balmain est un pantalon de flanelle avec une vareuse. Pourtant, la guerre, encore une fois, ne va pas bouleverser le vestiaire des femmes. C'est-à-dire qu'au sortir de cette guerre, dans la deuxième moitié des années 40, on arrive vite au new look de Dior, à la jolie madame de Balmain, et toutes les femmes sont en jupe.
Absolument, et finalement, Balmain, on va... comme vous venez de le dire, davantage être l'associé à ce couturier jolie madame qui, comme son ami, son camarade de travail, Christian Dior...
Oui, parce qu'ils se sont connus dans le studio de...
Le Long,
Lucien Le Long. Ils travaillent ensemble.
Ils vont affirmer sur ces nouvelles scènes de mode parisienne une féminité qui, à plus d'un titre, peut paraître aujourd'hui, alors peut-être un peu romantique, c'était effectivement peut-être la nostalgie d'une féminité de la belle époque, ou en tout cas d'un passé révolu, alors que précisément, à quelques années près, on aurait pu penser voir un tout autre vestiaire. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce moment d'une reconstruction, où après des années effectivement extrêmement difficiles, quelque chose qui me marque toujours, c'est la toute première silhouette que présente Yves Saint-Laurent sous son nom. On est en 1962, la même année que André Courrèges propose lui aussi un pantalon, mais rappelons à un instant que Yves Saint-Laurent était l'élève, l'apprenti de Christian Dior, donc le grand couturier de la femme fleur, le grand couturier du New Look. Donc c'est quelqu'un qui a vécu ses premières années d'apprentissage de la haute couture dans ce contexte de cette maison-là. Et pourtant, quand il présente sa première collection, qu'il signe avec son propre nom, c'est cette emblématique silhouette composée d'un caban et d'un pantalon en chantung avec des chaussures plates. Et là, presque tout est dit, finalement. C'est un manifeste, c'est cette idée que, littéralement, cette mannequin peut courir après son bus, peut héler un taxi dans la rue. Ce sont deux pièces de vêtements qui viennent alors du monde du travail, ou en tout cas qui sont largement liées à ce contexte de la garde-robe des marins, va-t-on dire. Alors certes, c'est en chantung, ça reste un produit de haute couture.
Le
avec
chantung,
des...
il le faut chantung, expliquer.
Oui, alors, la soie, le chantung. Oui, pardon.
Non, très bien. Non, je laisse la styliste décrire le chantung.
Oui, c'est de la soie avec des flammes un peu.
Oui, c'est une des façon de tisser la soie qui fait que des fils sont un petit peu en relief.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un tissu précieux, dirons-nous. C'est un tissu qu'on associe assez spontanément à la haute couture. Et ce pantalon, ce premier pantalon, qui est fondamentalement le premier modèle Saint-Laurent, je trouve qu'il augure, bien sûr, de plein d'autres choses qu'il fera au long de sa carrière. Mais il est très fort.
Alors, on est dans les années 60, là, on approche de mai 68. Agnès B., vous qui l'avez vécu, qu'est-ce que ça a changé, mai 68? Est-ce que ça a vraiment tout changé?
C'était génial, hein, d'être marché boulevard Saint-Germain en plein milieu. Moi, j'étais tout le temps dans la rue. Hein. J'avais des jumeaux qui avaient 8 ans. Et je pensais à Dorothée Bis en 62. J'étais chez Dorothée Bis avec Jacobson, avec Ellie et Jacqueline Jacobson. Et là, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai dessiné beaucoup de choses, et entre autres des pantalons, bien sûr. Et puis les costumes rayés noir et blanc qui étaient dans Kiedu Polimagou, que j'ai fait chez Dorothée Bis. Donc en 62, j'étais en plein au cœur de ce qui se passait à Paris, disons. Chez Dorothée Bis, j'étais à elle avant, il m'avait remarqué pour mon look qui était au dépuce. Et puis après, j'étais chez Dorothée Bis ces années-là, 62-64.
Et justement, vous vous habilliez au puce. Est-ce que vous y chopiez des pantalons?
C'était plutôt une veste militaire que j'avais trouvée. Puis je portais ça avec un jupon de ma grand-mère blanc et des bottes de cow-boy. C'est comme ça que le journal Elle m'avait remarqué. Personne ne s'habillait comme ça à ce moment-là. Je n'avais pas du tout d'argent, je m'habillais qu'au puce. Et c'est ça l'histoire.
Et donc chez Dorothée Bis, vous avez créé des costumes pour Polimago?
J'ai dessiné beaucoup de choses pour eux. Je m'entendais très bien avec eux, les deux très différents. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé 2 ans chez eux. Et entre autres, Polimago, le film avec ses rayures noires et blanches, qui sont toujours d'ailleurs dans les collections de la maison Agnès B.
Vraiment extraordinaire de William Klein, qu'on vous conseille.
Bill Klein était un amour, et sa femme aussi, oui. Donc j'ai travaillé que chez Dorothée Bis pour le film, entre autres, oui.
Alors à cette époque-là, on sent quand même que le pantalon choque encore.
Romy Schneider, ce soir, vous êtes en pantalon du soir.
Oui, et Mademoiselle Chanel.
Comment sont-ils ces pantalons?
Très beaux, blancs.
Mais encore.
Comment?
Blanc et doré.
Non, blanc et argent.
Et argent. Aimez-vous cette tenue?
Oui, beaucoup. Pour ce soir, en tout cas, et pour chez moi.
Jean-Paul Belmondo, vous aimez le pantalon pour le soir?
Si ce qu'il y a dedans est joli, oui.
Jean-Claude Brialy.
Mais je suis contre. À notre époque, de plus en plus, on ne fait plus de différence entre les filles et les garçons. Quand les filles ont les cheveux courts et les garçons les cheveux longs, de dos, on ne sait plus les reconnaître. On avait un moyen, c'est de voir ou d'apercevoir des robes. Et puis brusquement, on nous enlève tout ça, on nous met les femmes en pantalon même le soir. Porter un pantalon, croyez-moi, moi qui en porte depuis 30 ans, c'est très difficile.
Maria Callas, avez-vous mis un pantalon pour cette soirée de gala?
Non, je suis encore du vieux style, j'ai peur.
Ils ont changé le monde.
Moi, je mets des smokings pour Cannes. Hein. Je fais des smokings pour les femmes pour Cannes. Mais tout d'un coup, c'est beau de voir autre chose que des robes à flanflon, là, tout ça.
Oui.
De temps en temps, c'est beau de voir une femme en smoking. C'est joli.
Mais alors, c'est incroyable, cette archive où on entend Jean-Claude Brialy dire qu'il est contre.
Oui.
Comme si la question se posait encore dans les années 60, d'être pour ou contre le pantalon pour femmes.
Oui, c'est fou, ça.
C'est pas le souvenir que vous en avez.
Non, j'étais pas du tout là-dedans, non.
Alors l'autre grand couturier qu'on associe généralement au pantalon, Emilia Mène, vous en parliez, c'est Yves Saint Laurent. Il introduit son fameux smoking en 1966 dans ses collections. Le smoking qui sera d'ailleurs un succès du prêt-à-porter d'Yves Saint Laurent, beaucoup plus que de la couture. Il connaît une grande diffusion auprès des femmes par ce prêt-à-porter. Mais s'il défendait le pantalon, Yves Saint Laurent défendait surtout l'idée d'un pantalon féminin.
Vous adorez, vous, les pantalons, mais il y a beaucoup d'hommes qui trouvent que le pantalon n'est pas féminin du tout.
J'adore le pantalon, en effet. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, de côté George Sand, suffragette, enfin, je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, en portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité, justement pour lutter contre lui. C'est un handicap qu'il faut surmonter par sa féminité.
Ivan Jacob. Ah, on retrouve l'idée qu'on développait dans les années 30, c'est-à-dire que le pantalon féminin, il devient acceptable parce qu'il est adapté au corps de la femme et que ce n'est pas un emprunt au vestiaire masculin. Emilia Mène.
Oui, c'est pour rebondir sur ce que Agnès B disait sur le jean. Peut-être que finalement, qu'est-ce qui est plus subversif de porter véritablement un vêtement qui a été coupé pour un homme, à savoir un smoking qu'on associe à cette sociabilité masculine du 19e siècle, d'être dans un salon, un fumoir, ou finalement ce jean qui a été peut-être dès son origine dans un rapport peut-être plus unisexe, comme vous le disiez, Ivan. Et je me demande effectivement, Qu'est-ce qui peut davantage choquer ? Est-ce que porter un vêtement qui est purement masculin et qui est perçu comme tel, c'est peut-être ça qui est plus subversif ?
Oui, mais c'est le rock'n'roll aussi, le jean. Hein. Les pantalons, les femmes en jean. Et Patti Smith, qui a porté un pantalon rayé à moi pendant 2-3 ans, là, à grande rayure noire, rouge et blanche, un peu pas de def. Il y a plein de formes de pantalons, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a des pantalons aussi larges que des jupes. Il y a des fins, plus lourds, en cuir. Moi, je fais des jeans en cuir depuis toujours. Chez Agnès B, on a toujours eu des jeans en cuir. Le pantalon a une place importante dans mes collections. L'hiver, on fait en jour côté et ça a beaucoup de succès aussi. C'est marrant, un gros tissu comme ça, ben c'est joli sur les filles minces.
Ah, alors justement, vous m'offrez une transition parfaite. Les filles minces, c'est aussi ce dont parle Gabrielle Chanel quand elle évoque le pantalon. Et on voit que l'accès au pantalon ne signifie pas la fin des diktats qui pèsent sur les corps des femmes.
Même ces filles-là, vous leur mettez un pantalon, elles deviennent vulgaires, je ne sais pas pourquoi. D'abord parce qu'ils pensent qu'il faut se dandiner comme ça, je dis « Ah non, ne marchez pas comme ça, surtout pas ». Et là-dessus, je lui enlève le pantalon, j'essaye sur une autre, et ça fait absolument le même effet. Vous pouvez très bien admettre qu'à la campagne, on porte des pantalons, c'est tout ce qu'il y a de plus utile, on n'a pas froid, on peut se mouiller un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, c'est moi qui les ai inventés, et ça fait presque 20 ans. Je les avais inventés par pudeur, parce que je trouvais que de se promener en costume de bain sur une chose, c'est ça, celle qui voit se montrer tout nu. Eh bien, quand je trouve que quand on a pris son bain de mer, même si on veut rester sur la plage, c'est pas difficile d'enfiler un pantalon. Une jupe, c'est pas joli. Un peignoir de bain, c'est affreux. Par conséquent, un pantalon, c'est très bien. Les femmes sont gentilles, c'est bien, on peut se rouler dans le sable toute la journée. Mais entre ça et en faire une mode, et qu'il y ait 70% de dames en pantalon le soir dans un dîner, c'est assez triste.
Vous n'avez pas l'impression que ça leur va bien à toutes ?
Non, 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 non. Ça va aux gens très jeunes. Ça ne va pas partir d'un certain âge. On a l'impression qu'on s'est mis ça pour se rajeunir.
Comme on a l'impression.
Porter un pantalon, ça ne les change pas leur visage, vous savez. Ils font des pantalons, je vais faire des pantalons. On aime plus les jupes, on aime les pantalons. Je vais en faire. Et ça me prouve que j'ai beaucoup changé, parce qu'il y a 2 ans, j'aurais dit, je me fous de ce qu'ils font, ça ne me regarde pas qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je ne ferai pas de pantalon.
Emilia Mène, le pantalon n'a pas gommé les diktats qui pèsent sur le corps des femmes.
Oui, non, absolument. Il ne suffit pas de changer de parure pour se départir de toutes les attentes que l'on assigne à un rôle, et notamment au rôle des femmes dans la société.
En 1969, Sonia Riquel évoquait son expérience du pantalon dans Paris au micro de la journaliste Sylvie Moreau pour l'émission Coda.
Si vous voulez, la chose dont je me souviens là maintenant, dans l'instant, c'est il y a 4 ans, la première fois que j'ai porté un pantalon dans Paris, en semaine, en allant déjeuner avec un ami. J'avais un rendez-vous d'affaires Et je suis arrivée en pantalon et cette amie m'a dit « Est-ce que tu veux venir déjeuner avec moi au Phuket ?» Je suis restée un petit peu interdite parce que je trouvais que le Phuket, c'était peut-être pas tellement l'endroit rêvé avec un pantalon. Mais puisqu'il était d'accord, je l'étais aussi. Et nous sommes allés déjeuner au Phuket. Je suis arrivée là-bas et il y a eu quelque chose de terrible. C'est que c'était pas moi du tout qui était gênée, c'était tout le monde. Parce que les gens ne savaient pas. Et c'était, ils avaient l'air beaucoup plus gênés que moi. Moi, j'étais très à l'aise en définitive.
C'est une archive de Sonia Riquel en 1969, mais elle parle d'une aventure qui lui est arrivée 4 ans plus tôt, donc au milieu des années 60. Est-ce que, Agnès B., vous vous souvenez de moments de gêne tels que celui-là ?
Non, pas du tout. Moi, je sais que j'allais au Flore beaucoup. Hein. Quand j'avais 16, 17 ans, j'allais au Flore retrouver Christian Bourgois.
Qui était votre mari.
Oui, qui a été mon mari. D'où le B. Bon, et le pantalon, ben, j'avais du pantalon. Moi, je portais un jean à ce moment-là, je pense. Oui, sûrement.
Donc c'est une question d'endroit aussi.
D'âge aussi, parce que j'avais 16 ans, 17 ans, donc les jeunes, ils portaient des jeans très tôt finalement. Dans les années 60, c'est la musique qui a influencé ça, le rock'n'roll et tout. Ça a influencé les looks beaucoup.
Vous le disiez, dans votre expérience personnelle, c'était pas tellement une revendication de porter le pantalon, c'était pratique, et puis c'était la musique, c'est ce que faisaient les jeunes.
Oui. De toute façon, ma mère disait, mon agneau n'en fait jamais qu'à sa tête, bon... est un phénomène aussi, elle disait. Je ne savais pas comment prendre ça.
Et aujourd'hui, Agnès B., vous portez plutôt des jupes ou des pantalons ? Vous êtes venue
pantalon.
En pantalon aujourd'hui ?
Oui, je porte souvent des pantalons. Ou des caleçons noirs, ou des caleçons aux genoux, des caleçons à la cheville. J'aime beaucoup porter des caleçons, c'est hyper agréable. Avec un grand pull ou n'importe quoi, ça va. Moi, je dis quand ça va, quoi.
Et vous, Émilie Amène, est-ce que vous êtes plutôt jupe ou pantalon ? Parce que j'ai le sentiment que dans l'espace public, on voit quand même beaucoup de femmes en pantalon.
Absolument, résolument pantalon.
Je suis très souvent quand même en pantalon, en caleçon, en salopette, en combinaison. Ouais. Avec mon système qui s'ouvre à l'arrière. Qui change tout, oui.
Il y a une phrase de Sonia Riquel que j'aime beaucoup. Elle disait « Un pantalon suit vos jambes, une jupe mène sa vie, le pantalon vit la vôtre ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Émilie Amène, Agnès B. ?
Moi, je sais pas, j'ai pas de philosophie là-dessus. Bon, non, je sais pas. Le tout, c'est d'être bien dans sa peau autant qu'on peut. C'est ça le plus important pour moi.
Alors, je citais en introduction cette anecdote sur Michel Alliot-Marie qui va introduire le pantalon dans le monde politique. Et à partir des années 70, on peut dire quand même que le pantalon se généralise totalement pour les femmes. Aujourd'hui, c'est plus une question, en tout cas dans le monde occidental et dans une majeure partie du monde. Est-ce que vous pensez que le droit au pantalon est inaliénable pour les femmes ou est-ce que ça pourrait disparaître ? Ce sera ma dernière question.
Ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui portent un pantalon sous une tunique dans beaucoup d'ethnies dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits où le pantalon est caché sous autre chose. Hein. Donc, c'est pas la fin du pantalon, je crois, pour les femmes. Ça va continuer.
Je pense aussi que les luttes ne sont jamais terminées et que ce droit à porter un vêtement...
Oui, c'est vrai qu'il y a des pays où ça ne peut pas être porté, je pense. Ça existe encore, je crois, malheureusement.
Alors, je crois qu'il n'y en a pas tellement où ça ne peut pas être porté, mais où en tout cas, il peut y avoir des restrictions et des discussions, effectivement, sur le droit au pantalon pour les femmes.
Et l'actualité nous montre bien que des acquis que l'on pense parfois inébranlables ou inscrits dans des textes de loi peuvent être... détricoté, pour prendre une métaphore textile.
Merci. Quand je vous dis qu'à Versailles, on portait une jupe sur un pantalon, on mettait un pantalon sous la jupe, hein. On n'allait pas à l'école en pantalon, même s'il faisait moins 10, moins 15. Je disais ça tout à l'heure, mais c'est vrai, quand j'y pense, j'avais pas repensé à ça.
Oui, c'est fou.
Oui.
Merci Agnès B., merci Émilie Amène. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et à Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, c'était Julien Douminc. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.